Carnet de voyage. Une invitation.
Can't anybody see? Bonjour amis auditeurs de RCF Alpes-Provence. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Jean-Marc Berthet. Bonjour.
Ya'at eh. Bonjour en langue navajo.
Vous venez de le prononcer, vous venez nous parler des Indiens navajo, que l'on appelle par le nom de Diné.
Dans leur langue, puisque évidemment ces peuples indiens d'Amérique avaient leur propre langue avant l'arrivée des Européens.
Les Navajos eux-mêmes, on les connaît sous quel nom ?
Sous ce nom-là, voilà, qui est un mot espagnol qui vient du mot navaja, qui veut dire couteau. Navajo, on va les appeler comme ça, pour être plus simple, habitent dans les régions du sud-ouest des États-Unis, Arizona, Nouveau-Mexique.
Ils sont à cheval sur quatre États ?
Quatre États, mais surtout sur l'Arizona. Et donc, les premiers blancs qu'ils ont vus arriver sur leur territoire étaient non pas des Anglos, mais des Espagnols. D'où ce nom, puisque les Espagnols semblent les avoir remarqués par le fait de porter des couteaux, donc Navarra, donc Navarro. Voilà pourquoi on les connaît sous ce nom.
Alors le nom de Diné, c'est en traduction, c'est le peuple ?
C'est le peuple dans leur langue, qui est une langue, hein, et absolument pas un patois ou un idiome quelconque. Langue très très compliquée pour nous, avec des intonations assez... imprononçable.
Oui, vous m'avez dit que c'était assez difficile pour un Européen.
Oui, parce que ce sont des sons avec des T, des L qui se mélangent et donc assez compliqué pour nous.
Alors qu'il y a une langue qui est plus simple et plus accessible pour nous.
Qui est le Lakota des Sioux. Alors là, on est beaucoup plus au nord, hein, 1000 km plus au nord, dans le Dakota du Sud, où là, beaucoup d'entre vous ont sans doute vu « Danse avec les loups ». Danse avec les loups, ça se traduit par Tatranka Obwachi. Donc, on voit que c'est des sons beaucoup plus prononçables pour nous.
Alors, il y a une notion très importante, c'est la notion de nation.
Oui, c'est une notion qui est aujourd'hui très répandue chez les Indiens d'Amérique. Je vais pas ici faire tout un développement ethnologique.
Oui, rappelons que vous êtes ethnologue et professeur d'histoire-géographie.
Rappelons-le, merci. disons que cette conception de nation, elle est effectivement calquée sur les Blancs, dans le sens de se dire, voilà, nous sommes un groupe avec une culture, une identité, un territoire, donc une nation.
Il y a énormément de nations. Il y a la nation Sioux, Navajo, Apache. Il y en a combien à peu près ?
Alors, très exactement aux États-Unis, il y a 542 réserves reconnues par l'État fédéral. Certaines sont de la taille d'à peine Gap, voire un quartier de Gap, et puis d'autres comme celle des Navajos qui est la plus grande, et la taille de la Belgique et de la Hollande réunies. Et chacun de ces peuples a tendance à se définir en tant que nation.
Par contre, ils ont des choses en commun qui sont par exemple la vision du monde.
Oui, on peut dire que bon, il y a des différences rituelles, il y a des différences de langue, de cérémonie, mais quelque chose sous-tend les Indiens d'Amérique avant l'arrivée de l'homme blanc, comme ils disent, c'est cette espèce de relation, non pas une relation écologique ou magnifiée avec la nature, comme on le verrait aujourd'hui, mais plutôt...
Ouais, ce qu'on imagine d'ailleurs, vu de l'extérieur.
Oui, ouais. Voilà, alors que c'est pas aussi simple que ça. Disons que c'est une compréhension qui fait que, pour eux, l'homme fait partie de la création, ni plus ni moins, il n'est pas au centre.
Au lieu d'être au centre, comme voilà. Nous le concevons, nous. Voilà. Alors, cette conception du monde, c'est basé sur l'harmonie.
Oui, chez les Navajos, chez les Diné, on parle du mot « ojon », qui veut dire la beauté. Beauté, c'est l'harmonie. Par exemple, une des plus belles prières Navajo est la suivante. « Faites que la beauté soit au-dessus de moi, que la beauté soit en dessous, que la beauté soit à mes côtés, que la beauté soit derrière moi, que la beauté soit face à moi. Ainsi, je marche dans la beauté. » Voilà la prière la plus répandue chez les Navajos. Et la beauté englobe l'idée d'équilibre et d'harmonie.
Vous avez pris vous-même une de ces phrases de cette prière pour votre association Walking Beauty.
Oui, marcher dans la beauté, tout simplement parce qu'aussi, sous une forme de clin d'œil, en roulant un jour dans la réserve Navajo, j'ai trouvé un truc beaucoup plus sympathique au bord des routes qu'au bord des nôtres, où parfois c'est marqué attention radar. Ouais. Là-bas, il y a des panneaux, c'est marqué Drive in Beauty, conduisez dans la beauté.
Ouais, c'est magnifique.
J'ai trouvé ça plus poétique.
Alors, ils ont une compréhension spirituelle qui est basée sur un principe créateur, celui du Waka Tonka.
Alors ça, c'est plutôt pour les Indiens des plaines, pour les Lakota. Les Navajos, c'est moins défini. Dans les deux cas, on a un principe créateur. Ça a été ça, je crois, la grande erreur historique, c'est de les avoir appelés animistes. C'est-à-dire, avec une certaine condescendance, un peu des crétins qui voyaient je sais pas quoi un peu partout. Non, il y a un principe créateur dans leur explication du monde. Et aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, on va dire qu'il y a deux grandes sortes de mythes. Il y a le mythe tombé des étoiles ou le mythe de l'émergence. Le mythe tombé des étoiles, c'est les peuples plutôt du nord des États-Unis et du Canada, comme les Sioux, comme Wakantanka, qui a créé toute chose, mais pas l'homme directement. L'homme n'est qu'un élément de la création. Et la vie, ou l'intelligence, si vous voulez, vient à l'homme par un être mystérieux qui tombe des étoiles. Donc c'est ça le mythe de tomber des étoiles. Qui se déclinent, par exemple les Lakota, certains disent qu'ils viennent eux-mêmes des Pléiades. Bon, et puis vous avez dans le sud, dans la partie sud-sud-ouest, les mythes de l'émergence. C'est-à-dire que là, on vient des profondeurs du monde, et il y a eu plusieurs mondes qui ont été détruits par le passé, et actuellement, les Navajos ont émergé dans le quatrième monde, nous sommes dans le quatrième monde, et là aussi, ils disent, si les règles naturelles de l'équilibre des choses ne sont pas respectées, bien ce monde-là sera détruit comme le furent les trois premiers.
C'est très très intéressant. J'ai lu le livre que vous m'avez passé, où on parle de premier homme, de première femme, qui furent créés dans les brumes blanches.
Oui, c'est ça. Et dont et qui vont avoir comme enfants des jumeaux. Ces jumeaux sont tueurs de monstres. Des monstres peuplent la terre. Et les jumeaux vont détruire ces monstres, sauf certains, justement pour préserver l'équilibre des choses. Et donc, ils ne vont pas tuer la vieillesse, ils ne vont pas tuer la maladie. Et un troisième que j'ai oublié... tout aussi peu sympathique.
Et c'est de là que vient le rapport qu'ils ont avec les anciens, avec les vieillards et les malades,
oui,
qui restent en permanence ensemble.
Bien sûr, parce que de toute façon, on est rattaché à premier homme, première femme, aux jumeaux, à femme changeante, et donc au premier clan. Les jumeaux et femmes changeantes vont donner les premiers clans. Donc on fait partie d'un clan. Les Navajos sont une nation clanique. Le clan de l'eau claire, le clan de la biche, le clan du sable dur, etc., etc. Donc quand on se présente chez les Navajos, on ne vient pas en disant « bonjour, je suis Monsieur Berthet ». On fait « bonjour, je suis le fils de un tel et un tel, du clan de un tel, de clan de un tel, de clan de un tel ». Ainsi, on se reconnaît.
J'aime bien ces Indiens loin des clichés. En définitive, vous-même, vous voulez absolument combattre ces clichés de l'Indien magique.
Oui, parce que, bon, on connaît tous plus ou moins les Indiens d'Amérique, ou on croit les connaître. Hein. On croit les connaître souvent à travers les westerns. Je vais pas vous faire ici la litanie de tous les archétypes, hein, plume, calumet, bison, tipi, ouais, etc. Ouais. Alors déjà, tout ça, ça s'applique pas aux Navajos, en plus, bon. Et puis... il se trouve que ces peuples sont toujours présents en 2014. Ils sont quand même à peu près 3 millions d'Amérindiens aux États-Unis. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose par rapport à la masse, mais enfin, ils sont là. 3 millions, c'est plus que certains peuples de l'Union européenne. Mais évidemment, ces Amérindiens, si vous allez chez eux, et d'ailleurs, voilà, hein, on peut vous emmener.
Oui, on va en parler tout à l'heure, vous organisez des voyages.
Voilà. Ben, vous n'allez pas arriver au milieu des tipis et de gens qui dansent autour du feu et qui vont chasser le bison. Vous allez arriver au milieu de pick-up, voir des Indiens qui ont des téléphones portables et d'autres des ordinateurs et qui boivent du coca comme nous et qui mangent du fast-food pour pas nommer la fameuse marque.
Et qui sont remplis d'humour.
Et qui sont plutôt remplis d'humour. Hein.
Donc ils se moquent d'eux-mêmes et ils ont une tendance à avoir beaucoup de dérision.
Oui, voilà, d'eux-mêmes, de leur propre situation, du monde en général, mais d'une manière qui n'est jamais méchante, qui est toujours vraiment une façon de remettre en cause et puis peut-être de réfléchir un petit peu à ce qui se passe.
Alors, on va parler tout à l'heure des rituels et des voyages que vous organisez. On va faire une pause musicale avec un morceau d'un powwow. Donc peut-être il faudrait dire un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un powwow.
Alors les powwows sont des rassemblements qui se font toute l'année maintenant à travers tous les États-Unis et le Canada. Certains rassemblent des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs et de danseurs. Essentiellement des Amérindiens, c'est ouvert à tout le monde, c'est soit $10, soit 5, soit gratuit, donc je veux dire c'est pas cher, c'est pas réservé en tant que tel aux Indiens, vous pouvez y aller si vous tombez sur un de ces spectacles, et ce sont toutes toutes les séries de chants et danses traditionnelles qui au départ étaient des plaines et qui maintenant sont devenues le bien commun de tous les Amérindiens. C'est-à-dire que même chez les Navajos, qui sont pas des Indiens des plaines, on pratique aussi ces mêmes danses de powwow avec des chants au tambour et des voix de gorge très particulières qui sont les voix de gorge des Indiens d'Amérique du Nord, ce qu'on va entendre dans quelques instants.
Alors on écoute. Bonjour amis auditeurs de RCF Apo Provence, nous sommes toujours avec Jean-Marc Berthet, toujours avec les Indiens Navajo. On a compris que vous aviez fait des dizaines de voyages là-bas, vous avez même amené les Navajo ici en France.
C'était pas des Navajo qu'on avait amenés, mais c'était des Lakota, des Sioux, mais enfin c'était des Indiens d'Amérique et... Pour ceux qui étaient dans les Hautes-Alpes en 1990, je crois que ça reste un souvenir. On avait fait ça dans la vallée de Fraissinière, fallait oser quand même.
Ouais, donc ça doit être impérissable comme souvenir.
Je crois. Ça avait été un événement quand même assez extraordinaire que cette rencontre ici dans les Hautes-Alpes avec les Indiens d'Amérique.
Alors maintenant, vous êtes dans le flux contraire. Vous amenez des Français dans l'immersion totale chez les Navajo.
Ben, c'est-à-dire qu'à force... De rencontrer des gens demandant comment pourrait-on aller chez les Indiens, comment faire, etc. Avec quelques amis et surtout avec des amis Navajo là-bas, eh bien j'ai créé une association qui va prendre en charge les gens qui veulent venir passer des vacances chez les Navajo. On est tout à fait dans une époque de vacances, on va dire, intelligentes. On n'est plus en train de bronzer idiot, comme
ouais,
on dit.
Bien sûr.
Et là, eh bien, les gens vont avoir la possibilité de venir pendant une douzaine de jours dans des paysages somptueux, puis ça va de Monument de Valais, Canyon de Shelly, etc. Mais avec les Navajos. Vivre chez les Navajos, être logé chez l'habitant Navajo, les rencontrer, assister à leur vie, tout en étant en même temps en vacances, sans non plus donner dans la mode des sports extrêmes ou quoi que ce soit, qui sont pas tellement dans la philosophie des Navajos. Et donc, nous mettons ça en place. Ben, les froids n'arrivent là-bas qu'en novembre, donc on peut aussi y aller en automne. C'est d'ailleurs, moi, ma période plutôt préférée. L'été fait chaud. La nuit fait frême parce qu'on est en altitude, mais enfin, il fait quand même chaud. Hein, c'est très sec. Et l'automne est aussi une période très agréable pour visiter le pays et surtout rencontrer ce peuple-là.
Voilà. Alors, la rencontre de ce peuple-là passe aussi par des rituels. Donc, on peut parler un petit peu des rituels classiques de la Sweat Lodge.
Oui, alors voilà un rite qui, au départ, est un rite des Indiens des Plaines, des Sioux et des Cheyennes, et qui s'est répandu chez tous les Indiens d'Amérique. Hein. Aujourd'hui, on a une espèce de panindianisme qui est en train de se reconstruire. Cérémonie qui, d'ailleurs, s'est répandue aussi chez un certain nombre de Blancs, puisqu'on trouve des Sweat Lodges en Europe. Alors, j'ai des doutes.
Oui, sur, la... bon, sur l'authenticité.
Sur l'authenticité, surtout quand elles sont payantes. Hein. Si vous entendez parler de ça et qu'on vous demande de l'argent, à mon avis, il faut pas y aller. Ça consiste, alors, il y a un film qui s'appelle Cœur de tonnerre, où à un moment, il y a une scène et le policier de service qui comprend pas ce qui se passe, on lui dit c'est un sauna Sioux. Alors effectivement, on pourrait dire qu'il y a un principe qui s'en rapproche puisque vous êtes dans une espèce de petite cabane recouverte de couvertures, de bâches, etc. dans laquelle on a amené des pierres qui sont chauffées au rouge et sur lesquelles on va verser de l'eau. Donc on voit bien que le principe physique est à peu près le même.
Oui, il y a une petite ressemblance. Oui.
Voilà. Après, c'est une cérémonie. Il y a des chants, il y a du tambour, il y a un rituel. Et donc effectivement, on n'est plus tout à fait uniquement dans un sauna. Les gens qui peuvent avoir un intérêt pour l'approche de leur spiritualité peuvent effectivement commencer par une pratique de la Sweat Lodge. Mais je vous dis bien, à condition de rencontrer plutôt des Indiens ou alors des amis à vous et qu'on vous demande jamais d'argent. Si on vous demande de l'argent, déjà, le jeu est faussé.
Il y a des cérémonies de guérison aussi qui ont été vulgarisées un petit peu en Europe. La cérémonie avec les dessins sur le sable.
Oui, les Navajos pratiquent ce genre de choses. Alors là, c'est effectivement typiquement Navajo. Ce sont des dessins qui déjà artistiquement sont relativement complexes et magnifiques. Après, c'est une question de goût, certes. Mais ces dessins ont une vocation médicale qui se fait par l'intermédiaire du Atli, c'est-à-dire la personne qui va essayer de guérir, et donc qui s'inspire du monde spirituel pour faire les dessins sur le sable. Le patient ou la patiente est mise sur ce dessin et accompagnée d'un certain nombre de rituels, de chants, de prières. Ouais. À un moment donné, le dessin, à l'instar d'un mandala tibétain, va être entièrement détruit et le sable va recouvrir la personne. Et pendant encore quelques jours, d'autres actes rituels devront être effectués pour que la guérison soit faite. Alors, vous dire ça marche à tous les coups, je ne l'ai pas expérimenté par moi-même.
C'est dommage.
Mais me souhaitez pas d'être malade, on ne sait jamais. En tout cas, il est certain que aucun Navajo ne vous dira non, ça marche pas, c'est des histoires. Donc, moi, je pense qu'on peut y prêter crédit, mais d'une manière distanciée, intelligente, pas essayer d'y voir je ne sais quelle magie à quatre sous.
Et je crois, j'avais compris que chez les Sioux, il m'avait semblé, il y avait des quêtes de vision qui étaient souvent oui. Des rituels encore pratiqués.
Oui, ça se pratique encore aujourd'hui, et beaucoup, et pas que chez les vieux, hein, chez des jeunes. Moi, je vois des jeunes avec les pantalons baggy qui écoutent du rap et qui font aussi ce genre de choses, qui consistent à partir 2 ou 4 jours et 4 nuits sur une colline isolée, sans rien manger, sans rien boire, rester dans une espèce de fosse et prier pendant ces 2 jours et 2 nuits jusqu'à ce que un contact, une vision spirituelle
avec un esprit tutélaire.
Avec un esprit tutélaire. Alors en plus, ils vous disent mais tu peux très bien aller 4 jours et n'avoir aucune vision. Hein,
ouais, voilà.
Donc c'est pas garanti non plus.
Et l'esprit tutélaire peut être un ours, un rocher, ça peut être.
Il peut être un des éléments de la nature. Voilà, il peut être un ancêtre, il peut être un animal, souvent plutôt ours, loup, blaireau.
Aigle.
Aigle. Oui, mais Ouais. On va dire que l'aigle a plutôt d'autres fonctions dans la symbolique et la cosmogonie des Indiens d'Amérique. Ça peut être un rocher, aussi curieux que ça. Ouais. Ça peut être une plante. Voilà. Donc des éléments de la nature peuvent donner en quelque sorte leur leur message à la personne.
Alors un élément très important, c'est la plume d'aigle. En définitive, on la retrouve dans les powwows, dans les magnifiques décorations qu'ils ont sur eux. Et cette plume d'aigle, maintenant, elle est très difficile à obtenir.
Alors évidemment, aujourd'hui, elle est très difficile de par les lois américaines, comme chez nous. L'aigle est un animal protégé, donc il est hors de question, y compris pour les Amérindiens, d'aller chasser des aigles. La plume d'aigle représente ce qu'il y a de plus haut. L'aigle est considéré par tous les Indiens d'Amérique comme, on va dire, de manière simplifiée, le messager du grand esprit. Il est celui qui est en haut, il est celui qui voit l'avenir, il est celui qui transmet les messages au monde spirituel. Donc avoir une plume d'aigle est avoir une part de ce pouvoir. C'est un lien direct avec l'esprit créateur. Donc ça n'est pas donné comme ça, on peut pas l'acheter. Elles sont aujourd'hui transmises soit par hérédité, le grand-père en avait une, qu'il le passe, etc., soit pour certains à la suite d'une cérémonie, il ne suffit pas d'exprimer la volonté de l'avoir, un chaman, j'aime pas beaucoup ce mot-là, va dire ok, tu peux avoir une plume d'aigle. Alors à ce moment-là, aujourd'hui il y a des arrangements avec les rangers des parcs nationaux, on récupère le corps d'un aigle et les plumes qui vont avec. Mais de toute façon, une plume d'aigle aujourd'hui n'est donnée que en récompense d'une action pour le bien commun ou suite à quelque chose de très spirituel qui serait de l'ordre d'un rêve spirituel.
D'accord. D'où sa valeur.
D'où sa valeur. Voilà. Et puis, bien sûr, moi, j'en ai reçu une pour, on va dire, service rendu. Et il faut des papiers par rapport au gouvernement américain pour avoir le droit de la sortir. Et elle est dans une boîte et je me promène pas avec dans les rues de Gap.
Alors, on imagine que vous allez avoir du mal à faire venir. Vous avez le projet d'une troupe de 10 chanteurs. 10 chanteurs danseurs que vous feriez venir.
Oui, on va essayer de le mettre en place. C'est une question d'organisation. On va essayer de faire venir ces gens qui sont de véritables artistes pendant un mois et demi. Donc, la nécessité de trouver un certain nombre de villes pour les accueillir. Et je ne désespère pas, étant gapensais, évidemment, de commencer par notre bonne ville.
De Gap, oui.
Voilà, en sachant que une expérience avait eu lieu du même type il y a plus de 30 ans, qui s'appelait l'American Indian Dance Theater et qui avait connu un succès phénoménal. Donc je ne doute pas qu'on connaisse le succès. Je sais que beaucoup de gens me disent « Ah mais c'est formidable, leur danse, on en voit parfois sur Internet, d'ailleurs plutôt qu'à la télé, etc. On aimerait bien les voir. » Nous organisons depuis 2008... dans le Doubs, à Ornans, un powwow. Et là, on fait venir 50 à 60 Amérindiens. On fait un succès sur deux jours qui est extraordinaire. On fait dans les 30 000, 35 000 personnes. Ouais. Là, ce sera un spectacle en salle avec une dizaine de chanteurs et de danseurs, hommes et femmes, avec les plumes, avec le tambour, avec une scénographie. Et donc, je pense que là, les gens passeront pendant une heure et demie à deux heures un spectacle, une soirée.
Ouais, un moment merveilleux. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Avec un contact direct avec les Amérindiens. Ils pourront parler avec eux, bien entendu.
Ouais, les Amérindiens qui parlent anglais, évidemment.
Qui parlent anglais.
Sans problème. Voilà. Mieux que nous. Alors, on va laisser votre site internet.
Oui, alors, le site internet, si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil pour venir en pays Navarro, vous faites www.amérindien avec un S, voyage sans S, tout est attaché, amérindien voyage, et .com.
Voilà. Surtout tout attaché, parce que moi j'avais fait pas tout attaché, ça m'a envoyé sur des blogs.
Donc, Amérindien voyage tout attaché.
Merci monsieur Berthet de nous avoir fait découvrir cette culture.
Merci à vous, merci à RCF de me permettre de faire passer le message par la voix des airs.
Carnet de voyage. Une invitation.
Ooh, can't anybody see? We've got